question de la résurrection de la chair et de méditer là-dessus en ce jour de résurrection. Nous sommes invités à ressusciter avec le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Et singulièrement, ce que nous professons à chaque credo, la résurrection de la chair, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Un peu, et de voir que ce que dit le catéchisme de l'Église sur ce point-là. Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons, que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts, et qu'il vit pour toujours, de même, après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité, et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Comme la sienne, notre résurrection sera l'œuvre de la Trinité Sainte. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà, donc on croit à la résurrection de la chair, c'est important, ça c'est quelque chose qui est central, et ça demanderait tout un développement, pratiquement une retraite sur la question du corps et le mystère du corps humain. Et corps humain qui a été quand même dévalorisé par le message de l'Église durant des siècles, disons-le simplement. Qui me délivrera de ce corps de mort, qui me délivre, voilà, ce corps humain qui, et avec ça évidemment la question de la sexualité qui a été largement dévalorisée, hein, on voit dans saint Paul que voilà, les parfaits ce sont ceux qui sont dans la continence pour le royaume, et ceux qui brûlent, c'est-à-dire si t'en peux plus, etc., bon, prends femme et puis soulage-toi, grosso modo, bon, pardon, mais c'est un peu l'homme comme un paquet de testostérone, j'allais dire, présenté comme ça, mais ça a été quand même le mariage comme le remède à la concupiscence, c'est-à-dire, voilà, et je pense que c'est pas que ça, parce que de résumer le mariage simplement à une permission de coucher ensemble, ça me paraît extrêmement réducteur. Donc du coup je pense que c'est la question du corps, elle est bien plus vaste, et on doit beaucoup à Jean-Paul II sur toute sa théologie du corps, sur ce travail de cette vocation de la sexualité et de la vocation du corps humain. Et donc on voit que nous sommes invités à la résurrection de la chair, c'est-à-dire que notre corps ressuscitera. Comment? Ça reste mystérieux. Le seul exemple de résurrection de la chair que nous ayons, donc j'espère que vous avez bien les petits papiers là sur, on est en train de méditer sur ceux qui sont arrivés un peu tardivement, voilà, sur le catéchisme. La résurrection de la chair, c'est le seul exemple que nous ayons, c'est le Christ. Parce que n'oublions pas que les résurrections qu'il y a eu du temps du Christ, ce sont plus des réanimations que des résurrections. Par exemple, Lazare, typiquement, Lazare est mort. C'est peut-être une triste nouvelle pour vous, et vous pleurez beaucoup Lazare, comme Jésus le pleure, etc. Mais Lazare n'est plus parmi nous. Donc c'est ce qu'on appelle une réanimation. C'est l'âme a été redonnée au corps. C'est autre chose qu'une résurrection. On dit, là, pour simplifier, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, c'est le corps qui revient à être animé par l'âme, et cette union de l'âme et du corps qu'on appelle en philosophie l'union substantielle, c'est-à-dire que quelque chose qui est tellement connexe, qui est tellement l'âme est faite pour le corps est fait pour l'âme, eh bien c'est Lazare a bénéficié de façon extraordinaire du retour de son âme dans son corps. Mais la résurrection, c'est pas le retour de notre âme dans notre corps. La résurrection de la chair, c'est complètement autre chose. C'est le corps qui est glorifié. Alors, c'est assez conceptuel, assez vaste, assez vague éventuellement, parce qu'on se dit, ben, le seul exemple que nous ayons, c'est le Christ. Et quand on voit les Écritures, la résurrection de la chair, c'est assez étonnant. Eh bien, Marie-Madeleine le prend pour le gardien. Dis-nous où tu l'as mis. Les apôtres ne le reconnaissent pas. Donc, c'est intéressant de voir que les portes fermées, lui, il entra. il était présent, ce qu'on appelle le don d'ubiquité, présent en même temps dans différents endroits. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout le corps comme nous le connaissons, nous. C'est le corps qui est glorifié, quelque part, c'est la glorification de l'âme qui rejaillit dans le corps. Hein, c'est plutôt l'âme qui est... Le corps est dans l'âme, glorifié, plutôt que l'âme est dans le corps, hein, comme on le voit. Donc. Mais toutes ces questions-là, je vous invite à les travailler, parce que c'est des questions importantes de l'âme et du corps, et de cette relation entre l'âme et le corps, qui sont des questions un peu complexes, qui sont des questions plus philosophiques que théologiques, mais qui ont des implications théologiques. Hein. On ne peut pas penser une plénitude sans notre corps. Si on pense à un paradis et qu'on pense que ce paradis est une plénitude, qu'il est la contemplation de Dieu, cette contemplation de Dieu, à un moment donné, doit inclure le corps. Parce que, saint Thomas d'Aquin le dit, l'âme sans le corps est en état de violence. C'est-à-dire que notre âme est faite pour notre corps et notre corps est fait pour notre âme. Plus encore, c'est que notre âme a façonné notre corps et notre corps a façonné notre âme. C'est-à-dire que on voit des personnes, ce qu'on appelle la psychomorphologie. La psychomorphologie, c'est qu'on voit à travers du visage humain, on peut déceler quelque chose de la psychologie de la personne. La psyché, hein, psyché c'est âme. Mais aussi, l'âme de quelqu'un a été façonnée par son corps, par les maladies, par le handicap, par les adversités. Et on voit que des personnes deviennent courageuses, deviennent voilà, résilientes, parce qu'elles ont dans leur corps vécu quelque chose de difficile. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus sur l'âme et le corps et de façon à vraiment être attentif à ce point-là. Nous sommes la religion du corps. Nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes la religion du corps. Et nous n'avons pas terminé encore de comprendre, 2000 ans après, à quel point le corps a une importance dans notre foi. Alors, on peut expliquer le fait que le corps ait été, entre guillemets, méprisé ou mis de côté ou vu comme un obstacle pour aller vers Dieu. Parce que les premiers chrétiens se sont beaucoup inspirés de ce qu'on appelle des néo-platoniciens. Alors, ça remonte peut-être à quelques années vos études de philosophie. Et je vous invite à ressortir vos livres de philosophie grecque singulièrement. Qu'est-ce que c'était les néo-platoniciens? Vous rappelez Platon, le vrai monde n'est pas ici. Il y a le monde des idées, mais les idées sont plus réelles que le monde d'ici n'est que le reflet du monde des idées que seul le philosophe sage peut comprendre et contempler. Et donc il transmet aux autres ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Il a vu des ombres et il contemple ce qu'il a contemplé. Et ensuite, il transmet ce qu'il a contemplé. Ça veut dire que pour les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est intéressant de dire que le monde, la vie éternelle, voilà la vraie vie. Cette vie, la vie que nous vivons, ce n'est pas la vraie vie. Et donc ça a trouvé un écho chez les premiers chrétiens, cette dimension platonicienne ou néo-platonicienne, de cette manière, parce que Platon c'est plusieurs siècles, 3-4 siècles, 4 siècles avant Jésus-Christ, donc cette dimension platonicienne a trouvé comme un écho chez les premiers chrétiens qui voyaient le corps justement comme un obstacle pour aller vers Dieu. Et c'est là où ça... c'est toujours facile après de revisiter, de dire bon c'était pas bien, etc. Mais on les comprend, c'est ce qu'ils avaient comme outil à leur portée. Et ça correspondait à leur foi. Oui, notre cité est dans les cieux. Notre cité, elle est dans l'au-delà. Ici, nous sommes des étrangers, de passage. Et donc, on comprend bien que saint Paul, qui a été sensible à ce mouvement de néo-platoniciens, etc., disent, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et voient le corps comme un obstacle pour aller vers Dieu. Et ensuite, ça a été relayé par autre chose. C'était relayé par le fait qu'après la conversion de Constantin, c'est-à-dire 4e siècle, l'empereur de Constantinople, Constantin, après la conversion de Constantin, c'est-à-dire la fin des martyrs, la première manière de suivre le Christ, les premiers siècles, la seule manière, c'était le martyr. martyr qui malheureusement est de grande actualité, hein, encore aujourd'hui pour les chrétiens. Donc c'était le martyr. Et puis la conversion de Constantin, patatras, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Maintenant il n'y a plus de martyr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre le Christ? Et du coup est intervenue la vie monastique. Et donc la vie monastique était vue comme la manière la plus sublime et suréminente de vivre la suite du Christ dans la continence. Et donc le mariage vu comme quelque chose de seconde zone. Donc c'est intéressant de voir que pendant des siècles, la vie monastique a été présentée comme la manière de suivre le Christ après le martyr. Et il a fallu attendre Vatican II pour dire au fond que la sainteté, l'appel à la sainteté, il est pour tous. Et que tant religieux que moines, que prêtres diocésains, qu'époux, sont appelés, que baptisés, quel que soit leur état de vie, mariés ou pas, sont appelés à la sainteté, à la suite du Christ. Mais vous voyez, ça a pris du temps. Mais c'est vrai que c'est un peu contradictoire pour une religion de l'incarnation, comme nous prétendons l'être, et nous le sommes, c'est un peu contradictoire de dire, ben, en fait, le corps est un obstacle. Alors qu'on professe, hein, dans le credo, tant le symbole des apôtres que le credo de Nicée-Constantinople, on professe la résurrection de la chair. Parce que, justement, cette résurrection de la chair, c'est important de prendre conscience de ça, c'est que la plénitude à laquelle nous aspirons est avec notre chair. C'est pour ça que nous ne croyons pas à la réincarnation, par exemple. La résurrection n'est pas la réincarnation. Notre âme ne vient pas habiter un autre corps. Certainement pas. Certainement pas. Parce que ce corps a été façonné par notre âme et notre âme façonnée par ce corps. Et encore moins un corps qui ne soit pas humain. Et donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus, de voir que à travers la résurrection de la chair, c'est reprendre conscience de l'unité de l'âme et du corps, de l'unité qu'on appelle substantielle. C'est-à-dire, c'est pas facile à définir, parce que c'est des mots philosophiques. Et la question de la substance est importante, parce qu'on dit de même nature que le Père, mais de même substance que le Père. Hein, le Fils est de même substance que le Père. C'est-à-dire, ce qui fait notre être profond, ce qui fait notre personne. Vous vous rappelez au début, je vous ai parlé de la question de la nature, hein, et de la personne. Le Christ a pris notre nature, mais le Christ n'est pas personne humaine. Il n'est pas de substance humaine. Sa substance est divine. Alors, je comprends que c'est un peu complexe, voilà, dit comme ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est difficile, faut pas s'y atteler. Il est de même substance que le Père. Consubstantialem patris, on dit en latin. Consubstantialem patris. Il est de même substance que le Père. Pas de même nature que le Père. Nous sommes tous ici humains, de même nature, mais nous ne sommes pas de même substance. Absolument pas. Nous ne formons pas à nous tous une seule personne. Certainement pas. Chacun est de substance individuée. Ça va? On a le droit à la parole maintenant. Ça, oui. Parce que c'est une erreur de traduction. Parce que substance, ça s'est fait au moment du passage du latin. Les gens ils disent, mais non, personne ne comprend rien. Du coup, on a pris les fidèles pour les imbéciles encore une fois. Et du coup, on a dit, on a rabaissé. C'est de même substance que le Père. Dans le nouveau Missel, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très. Nous sommes de même nature, nous ne sommes pas de même substance. Absolument pas. Chacun a une substance. Substare, c'est ce qui se tient dessous, c'est ça que ça veut dire. C'est ce qui porte notre nature humaine, mais de façon individuée, et chacun a une substance propre. Nous ne sommes pas dans une fusion d'un grand tout. Certainement pas. et nous n'allons pas dans la fusion d'un grand tout. Alors là, au secours. Non mais, c'est important de dire des choses comme ça, c'est des choses basiques, mais vous le dites chaque credo, mais je pense, on ne prend pas, il y a deux formes, disons, il y a deux, entre guillemets, deux styles de personnes, il y a la personne humaine que nous sommes et la personne divine. Mais les anges ne sont pas, n'ont pas le statut de personne, et évidemment les animaux n'ont pas le statut de personne. Donc c'est intéressant de voir que seul l'être humain a le statut de personne. Et Dieu a le statut de personne. Nous croyons à la communion de personnes dans l'unité de la substance divine. Ce n'est pas un fromage coupé en trois, c'est que chacun, Père, Fils et Esprit Saint, est la totalité de la substance divine. Ben, la mode... ça nous amènera au camembert éventuellement, mais bon, mais c'est-à-dire que ça reste un mystère, c'est-à-dire que nous on pense, voilà, il est Dieu et chacun a une part de Dieu. Non, le Père est totalement Dieu, le Fils est totalement Dieu, le Fils et l'Esprit est totalement Dieu, chacun est la totalité du fromage. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que nous, dans nos, on balbutie, hein, moi aussi le premier, mais dans nos concepts, on a du mal avec ça, parce qu'on est dans le temps et dans l'espace et dans la matière. Mais dans la vie spirituelle, où il n'y a ni temps ni matière, la réalité est autre. Et on le voit avec le corps glorifié. Et ça, c'est, il nous faut une révélation, parce que notre intelligence n'y a pas accès seule, je veux dire, ça dépasse notre intelligence, ça dépasse les cinq sens. La foi, c'est ce qui nous fait accéder à quelque chose qui est au-delà des cinq sens. Le toucher, l'ouïe, la vue, le goût, c'est au-delà de ça. Mais le statut du corps est très important. Vraiment, nous sommes la religion du corps. Parce que nous sommes la religion de l'incarnation. Avec beaucoup d'incohérences, je veux dire, dans l'histoire. Mais bon, l'histoire, c'est toujours facile de juger l'histoire dans le rétroviseur. Ah ben, si on avait... Bon. On a eu le pape Jean-Paul II qui a vraiment redonné au corps toutes ses lettres de noblesse. Et au mariage, toutes ses lettres de noblesse. Et à l'union intime des époux, toutes ces lettres de noblesse. C'est pas juste, voilà, si vous n'en pouvez plus, prenez femme et vous prenez mari. Non. Le terme chair, numéro 990, le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. La résurrection de la chair signifie qu'il n'y aura pas seulement après la mort la vie de l'âme immortelle, mais que même nos corps mortels reprendront vie. C'est mystérieux, ça, je l'entends, hein. Nous croyons à la résurrection non seulement le fait que l'âme perdure après la mort, et ça je pense que c'est quelque chose que même d'autres religions peuvent avoir accès à ça, c'est-à-dire qu'il y a dans la personne humaine quelque chose qui transcende la matière. Notre intelligence et notre volonté transcendent la matière. Il y a quelque chose qui, après la mort, survit, continue à être. Nous contemplons Dieu avec notre intelligence et notre volonté. Et nous l'aimons avec notre volonté. D'où l'importance du lien avec les défunts. Je ne sais pas quel lien vous avez avec vos défunts, des fidèles défunts, bien souvent des grands-parents, etc. Mais bon, parfois c'est des personnes plus proches, plus jeunes. Mais c'est important d'avoir le lien avec les défunts. Et vous voyez, par exemple, dans les églises, dans nombre d'églises, notre chapelle en est un exemple. Je vous ai parlé du comte Bivert, qui a été celui qui a repris un peu le flambeau du père Lamy et qui a refondé la congrégation en 1941. Le comte Bivert est enterré dans notre chapelle. Vous avez remarqué, il y a une pierre tombale, vous avez remarqué ça? À un moment donné, il y a une pierre tombale qui recouvre, parce qu'il y a des travaux, donc on a essayé de la protéger, etc. Mais il y a une pierre tombale. Mais c'est souvent que dans les églises, il y a des tombes. Mais pourquoi? Parce que l'église, c'est aussi l'église qui est au ciel. Et on franchit bien souvent dans les églises de campagne, autour de l'église, il y a le cimetière. Souvent, vous voyez ça. Tout proche de l'église, on traverse le cimetière pour aller à l'église. C'est pas juste une disposition parce que c'est plus pratique. Hop, après la célébration, hop, on l'expédie là-haut. Non, mais c'est pas juste une question logistique. Vous voyez, c'est une question spirituelle. C'est-à-dire, c'est une question que nous formons aussi un seul corps qu'est l'église avec ceux qui nous ont précédés. Et qui sont dans la gloire. Hein, c'est intéressant qu'on est jeune, bon, on n'a pas trop le sens de la mort et de la prière auprès des défunts, etc. Mais c'est très important de prier d'invoquer ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire, nous sommes en communion avec ceux qui nous ont précédés et qui sont passés par la mort. Mais nous croyons qu'ils, avec leur âme, perdurent après la mort. Ils ne se fondent pas dans le grand tout, mais ils existent comme personnes face à la personne divine. Numéro 991, croire en la résurrection des morts a été, dès ses débuts, un élément essentiel de la foi chrétienne, une conviction des chrétiens. La résurrection des morts, cette croyance nous fait vivre, dit Tertullien. C'est un père de l'Église, ça. C'est cette croyance. Très rapidement, parce que justement l'expérience du ressuscité dans son corps glorifié. Mais il y a plus. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne. Je suis la résurrection et la vie. Ce même Jésus qui ressuscitera au dernier jour, c'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour, ceux qui auront cru en lui, qui auront mangé à son corps et bu son sang, il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la vie à certains morts, annonçant par là que sa propre résurrection, qui sera cependant d'un autre ordre, de cet événement unique, il parle comme du signe de Jonas, le signe du temple, il annonce sa résurrection le troisième jour après sa mise à mort. Voilà, nous sommes ressuscités avec le Christ. Le Christ qui est venu revisiter tout le séjour des morts, redonner ce souffle de vie spirituelle à tout le séjour des morts, au moment dernier, au jugement dernier, ressuscitera tous les morts. Oui ?
Mais alors du coup, il faut qu'il y ait un espace ?
Non. Non. Il n'y a ni d'espace ni temps. Et puis, je vais plus loin, c'est que l'ami Saint Paul dit, même la création aspire au salut. C'est-à-dire les vaches, les veaux, les cochons, voilà, aspirent les forêts, les montagnes. C'est mystérieux. C'est-à-dire, il faut quitter nos catégories d'espace et de temps. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on est dans le temps et dans l'espace, forcément. Et l'incarnation, c'est celui qui était de toute éternité, est venu dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Donc ce n'est... Non. C'est compliqué pour nous, hein ? Oui. Oui, là... Ah oui, mais ils n'ont pas une âme immortelle. Des animaux, si tu as perdu ton chat, il n'y a pas un paradis pour les chats. Non, non, mais c'est une mauvaise nouvelle, je sais, mais bon, mais... mais bon, ou notre chien, notre brave chien qui nous suit au chapelet, etc., ben, un jour, il mourra, mais parce que seule la personne humaine a une âme qui transcende. Alors, la question de la création, c'est vrai, pour moi, c'est extrêmement mystérieux, c'est que... Oui. Une âme, bien sûr qu'ils ont une âme, mais qui n'est pas une âme spirituelle. Leur âme se termine avec la décomposition de la matière. Bien, une âme, c'est ce qui donne la vie. Les végétaux ont une âme végétative, les animaux ont une âme animale, et l'homme a une âme humaine, c'est-à-dire spirituelle, qui va au-delà de la matière. Mais c'est le seul qui va au-delà de la matière. L'âme, c'est principe de vie. Tout ce qui vit a une âme, mais pas une âme au sens religieux, hein. Pas une âme au sens, voilà, de prière pour le salut des âmes, non, 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 ne priez pas pour le salut, ne ferez pas une messe pour le salut de votre chat, parce que ça, bon, ça fait marcher le business, c'est bien, mais c'est pas le sujet, mais donc du coup, mais ils ont une âme, c'est-à-dire que tout ce qui est à vie a une âme, qui est l'âme c'est quoi? C'est le principe de vie. Tout ce qui est vivant, la pierre n'a pas d'âme, parce qu'elle n'est pas vivante. Mais tout ce qui est du vivant est animé. Alors, ce qui est végétal a une âme végétale, ce qui est animal a une âme animale, et ce qui est humain a une âme humaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réincarnation, parce qu'il y a tellement de... Et puis, bon, voilà, c'est... Je pense que c'est important de... Oui. C'était quoi?
Je le vois plus un aspect médical, en fait. Enfin, quelqu'un qui a une apparence mort, mais qui va faire tout pour le...
Pour la réanimation, c'est remettre, réanima, remettre l'âme dans le corps. Mais quand on dit réanimation, ce n'est pas le bloc au bloc opératoire, on réanime quelqu'un. Parce qu'on réanime, c'est pas... C'est vrai. On peut confondre. C'est-à-dire que la réanimation, c'est pas au sens médical. C'est quelqu'un qui est mort, mais c'est un miracle. C'est pas la réanimation, comme on entend au plan médical, il est en réanimation, c'est-à-dire que son âme est encore dans son corps. Mais on va faire tout pour que l'homme quitte pas le corps, c'est-à-dire l'unité substantielle perdure. Mais la réanimation, comme le Christ, la vie, et la permise dans quelques cas de résurrection, la fille de Jaïr, par exemple, il y a quelques cas de... C'est des cas de ce qu'on appelle de réanimation, c'est-à-dire les personnes sont vraiment mortes, et puis même on dit, Lazare, il sent déjà. Et on est dans un pays avec beaucoup de soleil. Il sent déjà. Dieu remet l'âme dans le corps. Mais ça, c'est un miracle. Ce n'est pas un soin thérapeutique.
Et concrètement, Lazare, il se remet à marcher comme nous.
Mais il meurt aussi comme nous.
Et la preuve. Du coup, quand on meurt vraiment et qu'il y a la résurrection de la chair et du corps,
oui.
De l'âme, ça se manifeste comment? Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on a comme image ou comme témoignage ou comme...
Le seul témoignage, c'est le Christ. De ce que nous serons à la résurrection de la chair. Lazare est mort. Le Christ, lui, est vivant. C'est-à-dire, le seul témoignage que nous ayons d'une chair qui soit glorifiée, quelque part, le corps qui soit dans l'âme et l'âme est glorifiée et qui rejaillit dans tout le corps, c'est le Christ. On n'a aucun autre élément.
Et la Vierge.
Ah oui, et la Vierge, c'est vrai. La Vierge Marie. Oui, mais c'est vrai. La Vierge Marie, dans son Assomption, elle a été... Est-ce que la Vierge Marie, alors, c'est intéressant le statut de la Vierge Marie. La statue de la Vierge Marie, parce que l'Église n'a pas tranché. au terme, le dogme sur l'Assomption de la Vierge Marie dit la chose suivante, au terme de sa vie terrestre, mais l'Église n'a pas tranché, savoir est-ce que la Vierge Marie est morte et ressuscitée, ou la Vierge Marie a été assomptée de son vivant. Ce qu'appelle la dormition, ce que pensent plus les orthodoxes, oui. Ah, les quoi, les saints? Oui, mais au dernier jour. Alors que la Vierge Marie n'est pas ressuscitée, elle est avec son âme et son corps comme personne humaine. Ce n'est pas une personne divine, ça ne vous aura pas échappé. Comme personne humaine, elle est avec son âme de façon privilégiée, exceptionnelle, par sa vocation. Elle est avec son âme et son corps auprès de Dieu. C'est ce qu'on fait au jour de l'Assomption. Mais elle est assomptée. Elle est, alors que le Christ est... L'ascension n'est pas l'Assomption. L'Assomption, c'est de par sa nature divine, le Christ monte au ciel. Alors que la Vierge Marie est prise par Dieu pour monter au ciel. C'est... Oui, oui. Mais la plupart des saints, le corps, on le retrouvera. Il ne s'agit pas de retrouver le tibia, le péroné, etc. On va mettre tout d'un... Non. Ah, ce n'est qu'on ne passe pas, oui, d'accord. Mais c'est des corps morts, c'est des cadavres. Ce n'est pas des corps vivants. Il faut vraiment quitter nos catégories. Ce n'est pas facile. La résurrection de la chair, c'est pas on va retrouver le tibia de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, le mettre avec le péroné, etc., mettre tout à fait, et puis mettre deux. Non, c'est absolument autre chose. Et que le corps soit conservé ou pas, ça ne change rien. Parce que ce sera un autre corps. Ce sera le même et en même temps différent. Il sera glorifié. Mais on n'a pas d'expérience de la gloire. Elle n'est pas contre l'incinération. Elle est contre l'incinération quand c'est en haine de la foi, dans ce qu'on peut comprendre. Mais par exemple, c'est intéressant, au moment des funérailles, on demande la présence du corps en entier. Ensuite, certains optent pour l'incinération, pour des questions pratiques, pour des questions économiques, pour j'en sais rien. Si c'est en haine de la foi, du coup la personne n'est pas enterrée à l'église. J'en sais rien, certains originaux, mais bon, y en a qui peuvent se faire incinérer, c'est vrai qu'il y en a peu, c'est pas bon, l'incinération, voilà, accélère, j'allais dire, le rythme naturel, qu'on se termine, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, voilà, c'est tout, ça accélère, mais il peut y avoir quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas trop un sujet. Aujourd'hui, c'est pas trop un sujet. C'est pas. En revanche, on ne peut pas célébrer d'obsèques à l'Église catholique devant une urne qui ne contiendrait que des cendres. Il faut que le corps soit présent. C'est intéressant, ça. Oui. C'est-à-dire
je veux dire, nous expliquer que le corps, après, le corps que nous aurons dans l'au-delà sera uni à notre âme mortelle, que notre corps mortel sera décomposé, j'ai bien compris. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la résurrection de la chair?
Parce que, alors, c'est pas qu'on prend une chair et qu'on lui redonne vie, alors. C'est une manière d'expression. C'est une expression, mais résurrection de la chair, c'est-à-dire que nous reviendrons avec, nous contemplerons Dieu avec notre corps. Ça, c'est dans la Bible. Avec tes yeux, tu verras Dieu. C'est énorme. C'est-à-dire, nous contemplerons Dieu avec notre corps qui sera glorifié au dernier jour. De même, les damnés souffriront parce qu'ils ont rejeté Dieu, connaissant l'amour de Dieu et connaissant sa miséricorde, l'ont rejeté, ils souffriront avec leur corps. Oui. pas maintenant. Alors, quand on meurt, alors le statut de la personne défunte, c'est avec son âme. Donc, pourquoi au dernier jour, quand Dieu sera tout en tous ? On ne peut pas imaginer de résurrection de la chair dans un entre-deux. Maintenant, c'est quand, à la fin, nous croyons que tout va péter. C'est ça que ça veut dire. C'est que tout va exploser. Nous croyons ça. Chaque credo, on dit ça. Ce monde-ci, on renonce au paradis terrestre. Ce monde-ci, c'est fini. Et donc, la question des défunts, ils sont avec leur âme et leur corps, et du coup, nous pouvons prier pour eux ou leur demander la prière. Je sais pas si c'est un peu ta question ou c'est... Elle n'est pas ressuscitée. Alors, elle est où hein? On cherche la grand-mère, là. Allez, réveille-toi, là. On va invoquer les esprits. Bon, bref, non, mais... C'est-à-dire que ta chère grand-mère... Bon, c'est intéressant, c'est que l'Église canonise, elle ne damnifie pas. C'est-à-dire que on sait qu'en enfer, il n'y a que Satan et les anges qui l'ont suivi. Ça, c'est deux fois. Mais personne, il claire, on ne sait pas s'il est en enfer. On ne sait pas. L'Église n'a jamais... On dit, mieux vaut... Il eut mieux valu pour lui de ne pas naître. Mais on ne sait pas. C'est intéressant, parce que c'est vraiment une espérance. C'est, on ne peut jamais condamner à l'enfer quelqu'un. De son vivant. Ça appartient au mystère de Dieu.
Est-ce que Judas ne s'est pas repenti?
Oui, mais bon... Est-ce que dans le face-à-face avec Dieu, il s'est repenti? On sait, là-dessus, l'Église n'est que composée d'êtres humains, ça ne t'a pas échappé. Du coup, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire, Judas, du coup, le statut de Judas. Du coup, la grand-mère, elle est où? Alors, donc, pour revenir à ça, la question, donc, je pense la question de l'enfer. Nous savons qu'il y a Satan et ses anges. Parce que l'ange, quand il choisit, il n'y a pas de miséricorde. Il choisit en pleine connaissance de toute cause. Il n'est pas empêtré dans la matière et dans le temps. Comme nous qui ne voyons pas jusque plus loin que le bout de notre nez. En revanche, donc, ce qui me fait dire quand même, bon, mais c'est un avis personnel, pour aller en enfer, il faut vraiment le vouloir. Il faut connaître Dieu, l'aimer et le rejeter. Oui. Alors, ce qui a été dit hier, c'est « aux enfers » n'est pas « à l'enfer ».« Aux enfers », c'est le séjour des morts. L'enfer, ensuite, viendra avec la résurrection du Christ, où chacun devra se prononcer. Mais il est « aux enfers », il descend au Sheol, c'est-à-dire au séjour de ceux qui attendent, depuis le début du monde, jusqu'au Christ, voilà, il ne descend pas « à l'enfer ». Sachant que l'enfer, ce que je vous ai dit hier, l'enfer n'est pas hors dehors de Dieu, pour complexifier un peu la chose. Oui. Pour que chacun puisse, face au Christ, se déterminer. Oui, une révélation a posteriori de dire, leur âme est là, le lien possible avec Dieu est revenu, alors qu'il était coupé par le péché originel. Que faites-vous? Il n'y a plus de Sheol. Pour nous, il n'y a plus de Sheol. Il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus les enfers n'existent plus. Il est descendu aux enfers, c'est au séjour des morts, pour que chacun puisse. Il existe simplement le paradis, le purgatoire et l'enfer, c'est-à-dire la négation de Dieu. Oui. Oui.
On y reste jusqu'au retour du Christ, ou est-ce que...
Alors, la sortie du... C'est une bonne nouvelle, là. C'est une bonne nouvelle que je vous annonçais pour la grand-mère. C'est la sortie du purgatoire, c'est toujours le ciel. Le ciel. C'est-à-dire le paradis, le face-à-face.
Ah.
La sortie du purgatoire, c'est le face-à-face avec Dieu. C'est pas, il n'y a pas de truc, tu vas en enfer, tu vas... Non, c'est simplement, on prend conscience, et qui ne prend pas conscience, que l'âme a besoin de se purifier, notre âme... Et qu'est-ce qui purifie si ce n'est l'amour? C'est l'amour que l'on voit, qu'on entrevoit avec notre intelligence et notre volonté. L'amour qu'on entrevoit, qui nous, mais avec lequel on n'est pas en communion parfaite, c'est cet amour-là qui nous purifie. On a besoin de se purifier intérieurement. Et en même temps, on demande aux fidèles vivants de prier pour les âmes du purgatoire. Mais la sortie du purgatoire, ce n'est jamais l'enfer. Parce que l'enfer, il est d'une fois pour toutes. C'est, quand Jésus a visité le séjour des morts, les gens ont eu à se déterminer, chacun a eu à se déterminer. Je te reconnais comme Messie. Il y avait donc des âmes avec leur intelligence, leur volonté. Jésus s'est présenté comme personne divine, comme Messie. Est-ce que tu dis oui ou non à cet amour de Dieu? Et là, on est. Mais ensuite, le purgatoire, il est probable. Alors maintenant, le temps au purgatoire, mais on n'a pas de temps. C'est un état spirituel. Oui, Zoé? Les esprits qui rôdent. Attends, Zoé, là, je suis pas sûr de te comprendre. Ah oui, non, mais c'est d'autres choses, d'accord. D'accord. C'est qu'ils veulent avoir contact avec les âmes des fidèles défunts, des défunts, et avoir savoir où est-ce que ces âmes sont. Bon, voilà, c'est une forme de toute puissance. On n'a pas, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir où est-ce qu'est la grand-mère, où est-ce que machin, grand-père, ça nous est plus l'arrière, arrière. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir une sorte de puissance, d'avoir une connaissance que les autres n'ont pas. C'est une toute puissance. Bah oui. Qui répond? Bien sûr. Esprit, es-tu là? Tac, 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 oui, je suis là, ok. Mais qui répond? Moi, j'y crois au spiritisme, mais qui répond? Es-tu sûr que j'ai vraiment l'esprit de Dieu, l'esprit de la personne ou le démon? Qui tu sais? Ça, ne jouez pas, c'est-à-dire, si vous avez parfois dans la jouissance, etc., on fait tout. Vraiment, il faut demander, vraiment, je vous l'ai dit hier, dans le combat spirituel, de couper les liens, absolument avec ça, parce que ça crée des liens, c'est voir une emprise, voilà, plus ou moins grande du démon, je veux dire. Donc oui, le statut des fidèles défunts, l'Église canonise, c'est-à-dire reconnaît ce que tu as lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu as délié dans la terre, c'est le pouvoir que le Christ a donné à l'Église, à Saint-Pierre et à ses successeurs. Maintenant, on ne sait pas. Oui.
Vous disiez l'Église ne donne personne. On dit que les péchés mortels, donc conscients, non repentis, etc., entraînent le fait d'aller en enfer. En fait, est-ce que l'Église dit plutôt, enfin, je ne sais pas si j'ai forcément bien compris, que les péchés mortels sont susceptibles d'entraîner l'aliénation ou alors entraînent?
Alors, les péchés mortels, c'est qui coupent de la grâce, sont susceptibles d'eux.
Voilà, mais c'est pas une prononciation.
Non, non. Voilà, quelqu'un qui est mort en train d'assassiner quelqu'un d'autre, qui est objectivement un péché grave, on ne sait pas. Je trouve ça plein d'espérance, oui. Non, encore une fois.
Les saints et tous ceux qui ont passé le purgatoire, ils sont en face de Dieu, donc au ciel.
Oui.
Et pourquoi, à ce moment-là, on ne peut pas ressusciter?
Parce que ils ne sont pas ressuscités avec leur corps, parce que c'est quand Dieu sera tout en tous qu'on sera ressuscité à la fin des temps, je veux dire. Parce que ça aurait été un statut de l'âme humaine qui soit particulier, qui soit différent. Et tant que nous-mêmes nous sommes en pèlerinage, nous attendons la résurrection. Donc que Dieu soit tout en tous, mais nous Dieu n'est l'expérience que nous avons, c'est que Dieu n'est pas tout en tous, en tout, n'est pas le tout de nos vies. Nous sommes en chemin.
Donc,
exactement. C'est imparfait. Tant que le corps n'est pas là, c'est un face-à-face imparfait. C'est une plénitude imparfaite. Parce que l'âme est en état de violence sans le corps. Oui.
Fidèle défunt, on sait pour les fidèles défunts. Fidèle, pourquoi on prévoit pour les défunts? Fidèle, c'est quoi?
Fidèle baptisé. pour les défunts baptisés. Quand on offre des messes, là on a prié pour quelqu'un dans la messe, on prie pour les fidèles défunts. Il y a les défunts tout court. Bon, c'est vrai, ils sont plus courts, c'est vrai. Maintenant, sans le corps, ils sont plus courts. Donc, du coup, du coup, ça c'est sûr. Maintenant, nous croyons que le Christ est venu sauver toute personne. Mais on ne s'autorise pas à prier pour les fidèles d'autres religions tant qu'eux-mêmes n'ont pas, de leur vivant, manifesté la demande. Compris pour eux. Je me rappelle un curé de paroisse, etc., une personne musulmane, etc., qui dit « je voudrais être enterré à l'église ». Parce que j'étais au milieu de la campagne, n'avait aucun contact avec sa communauté, etc. Il dit bon, « je veux qu'on y ait un temps de prière ». Très bien. Pourquoi la communauté chrétienne ne prierait pas pour d'autres personnes qui ne sont pas baptisées? Mais du coup, il y a un rituel particulier, ça ne vous échappera pas, c'est que les funérailles ne sont pas un sacrement. Le sacrement, c'est pour les vivants. Il n'y a pas de sacrement pour les morts. Donc ça veut dire qu'il y a certaines latitudes dans la liturgie pour prier pour des personnes qui ne sont pas baptisées et qui demandent la prière des chrétiens, de la communauté chrétienne.
Même si sans forcément être d'autres religions, mais simplement en quelque sorte la personne qui n'est pas baptisée mais qui n'a pas adhéré.
Oui, mais là aussi il n'y a pas beaucoup de demandes. Hein. C'est vrai, il pourrait une personne qui n'a pas de bon. Ah non, c'est-à-dire où il faut que la famille demande. On peut prier intérieurement, mais de célébrer les funérailles, il faut que la famille demande. On ne va pas célébrer les funérailles, au nom de quoi on célébrerait les funérailles pour quelqu'un qui n'a pas demandé de funérailles chrétiennes. Parce qu'on sait, d'accord, mais il ne sait pas. Il y a aussi un respect de ça. On prie pour, mais on ne célèbre pas de funérailles, avec le corps présent, etc. Ce n'est pas de célébration. On peut prier pour les personnes, de même, vous ne vous a pas échappé, le Vendredi Saint, dans les grandes prières universelles, on prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu.